Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au théâtre et à la qualité extraordinaire des textes français, ça n'engage à rien. Dans cette émission solennelle, nous allons solennellement entrer dans le corps et dans la tête des écrivains qui ont su rédiger les plus belles lignes de la littérature française au théâtre.
Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous couper, mon cher Nicolas. Oui, oui. Je me permets de reprendre l'antenne parce qu'en fait, l'émission qu'on a envie de proposer ensemble, même si vous êtes de la partie, mais apparemment pas dans la tête, plutôt dans les mains, hein, au niveau des boutons poussoirs, l'émission qu'on a envie de présenter ensemble, qui s'appelle « Ça n'engage à rien », c'est justement une émission pour partager avec les gens simplement, sans cérémonial, sans un ton péremptoire comme vous l'avez fait. Voilà, de partager avec eux des textes autour du théâtre, autour de la poésie, partager avec eux des pensées d'acteurs, des correspondances.
Le théâtre ne peut être pas que pompeux ?
Ah bah le théâtre en fait n'est surtout pas pompeux. Le théâtre c'est une expression directe, libre, c'est une expression qui fait du bien. Voilà, le théâtre ça peut être violent, ça peut être drôle, ça peut être cruel, mais je pense qu'en dehors de divertir les gens, il y a un rôle qui est de faire réfléchir le public, de le mettre face à lui-même. Le théâtre agit comme un miroir sur le public.
D'accord, bah écoutez Steve, je vais vous laisser les rênes de l'émission alors.
Merci mon cher Nicolas. Nicolas !
Ça n'engage à rien.
Alors voilà mesdames et messieurs, l'aventure que je vous propose dans cette nouvelle émission Ça n'engage à rien et qui j'espère vous plaira. L'histoire c'est vous raconter des histoires.
Round 8.
Oh, il y a un truc très très rigolo. Il y a un gars, il y a pas très longtemps, un homme, j'ai vu un homme très âgé. Et puis, il sort du cirque, puis il demandait à voir le patron. Alors, on lui dit, bah, c'est lui. Alors, le gars vient vers moi, il me dit, voilà, monsieur, monsieur Romanès. Je dis, oui. Toute ma vie, j'ai amené des enfants au cirque. J'y vais presque tous les ans. Alors, j'ai amené mes enfants, mes petits-enfants, les enfants des voisins. Vous voyez, j'ai encore des petits, là. Tous les ans, je vais au cirque. Et à chaque fois que je sors du cirque, j'ai le sentiment de m'être fait voler. Et là, je sors d'un cirque de gitans, et c'est la première fois que je n'ai pas ce sentiment. C'était joli, quand même. Je m'appelle Alexandre Romanès, nul n'est parfait. J'ai une femme, 5 filles, 20 chats, tous des sauvages.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un grand bonjour à vous toutes et à vous tous.
Salut les filles.
Salut Nico. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est une star que nous recevons aujourd'hui dans votre émission.
Ouais, je sais, ouais, Steve, vas-y, un peu mollo.
Non, c'est pas toi, Nico. C'est,
hein?
Non, une autre fois peut-être. Et avec Monsieur Alexandre Romanès, c'est tout le cirque romanesque que nous recevons. Le seul cirque Tzigane d'Europe.
Ouais, ma gueule.
Alors, vous le savez, ça n'engage à rien sur Radio HDR 99.1. Et désormais en partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen.
Ouais ma gueule.
Ce qui nous permet concrètement d'être en immersion avec les différents spectacles et artistes qu'ils accueillent durant cette saison. Fort de ce partenariat, c'est au resto du club House du Golfe de Mont-Saint-Aignan.
La classe.
Sur le parc de loisirs où le chapiteau s'était implanté juste à côté.
La classe.
Que nous avons rencontré en décembre le directeur du cirque Alexandre Romanès pour son spectacle Voleur de poules.
Olé.
À cette occasion, nous avons échangé avec lui sur le cirque, mais aussi sur sa passion de l'écriture et de la poésie, l'amenant à publier 4 ouvrages chez Gallimard. C'est un magnifique voyage en caravane à travers sa vie et son peuple, auquel je vous convie dans ce nouvel opus intitulé tout simplement « Romanès ».
Ouais ma gueule.
Moi aussi je veux m'arracher en solo. Je suis pas un petit pédé qui veut devenir pompelard ou policier. Demain je veux de l'artiste, je veux le claquer pour ma gueule. Ça va bousculer au portillon. Qu'est-ce que je voudrais faire? C'est avoir du blé ou un truc où tu fais le beau? Un truc où tu gagnes des loves? Va savoir s'il n'y a plus moyen de trimer, s'il n'y a plus de boulot, plus à bouffer. Ça m'évitera de faire la queue. Je serai au chaud, blindé et enfourré jusqu'aux yeux. Et le Molière? Pourra toujours me charrier avec ses pèses à la con. Je serai bourreuse si je ferai pas son nom d'être malade. Je vais les faire frétiller, moi, les carrosseries. J'enculerai la vie avec la haine dans les yeux.
Mais comment tu causes ça, Pinocchio?
Mets ta flèche, bonhomme, où tu vas.
Bonsoir, je me présente, je m'appelle Alexandre Romanès. Alors, on va vous demander 2 ou 3 petites choses. Si vous faites des photos, de les faire sans flash, de ne pas filmer, ou alors vous me filmez moi. J'ai mis ma belle chemise. Alors, les téléphones portables ne nous gênent absolument pas. Vous pouvez les laisser sonner, dire je suis au cirque Romanès. Peut-être. Je dis bien peut-être qu'il va y avoir un spectacle. On ne sait pas. On ne peut pas savoir avec ces gens-là. Bon, On va essayer.
Ce que je sais, c'est que ma famille gitane est entrée en France un peu avant la guerre de 14-18. Avant, on est resté longtemps en Italie. Et avant l'Italie, on est dans les Balkans, on bouge. Alors nous, à l'origine, on est des montreurs d'ours. Le dernier qui a fait ça, c'est mon grand-père. C'était un drôle d'animal, mon grand-père. Oh, il avait de la santé, celui-là. Et alors, c'est lui, un jour, il a coupé de la toile, qu'il a cousu lui-même. Il a fait un petit chapiteau, mais tout petit, qui devait faire 10 ou 12 mètres. Et le spectacle qu'il faisait sur les places publiques avec son ours, ben il l'a fait sous le chapiteau. C'est comme ça qu'on est entré dans le cirque. Il n'y a pas beaucoup de gitans qui font du cirque. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, c'est pas vraiment un métier pour les gitans. Dans le cirque, on faut pas compter ses heures. Et ben nous, les gitans, surtout qu'on déteste être employé et on déteste être patron. On fait un petit boulot et alors, voilà, c'est comme ça qu'on est... qu'on s'est retrouvé à faire du cirque. J'ai commencé par voler. Non, je plaisante. Tout petit, on nous met déjà vers l'acrobatie et on fait déjà des petites choses. Et bon, le premier numéro que j'ai fait, j'avais 9 ans. Je faisais un petit peu de tout dedans. Un petit peu de jonglage avec les pieds. Je faisais de l'équilibre. Je faisais de l'acrobatie. Bon, c'était un petit numéro fait par un enfant, donc ça passait. Aujourd'hui, j'ai un nom de guerre, je m'appelle Alexandre Romanès. Ben oui, mais parce que je fais pas du tout du cirque comme mon père. Mon père avait monté 6 grands cirques et 6 énormes cirques. Et moi, ça me convenait pas du tout. Je trouvais que l'humain ne comptait plus. On était parti dans la technique, comme la société d'ailleurs, qui est partie dans une direction qui fait peur.
Le monde m'a blessé, comme un animal vivant, qu'on déchire avec les mains.
Pourquoi j'ai écrit ? L'écriture n'est pas une tradition gitane. La poésie me semblait trop haute pour moi, inaccessible. Et puis la vie, je voulais la vivre, pas l'écrire. Je m'étais fait une raison, mais pas le ciel. Lentement, au rythme des saisons qui passent, j'ai rempli un cahier d'écolier. Ce que je sais, c'est qu'il y a des poètes que j'admire. Peut-être que je n'ai pas supporté de les voir passer. J'ai voulu être l'un des leurs. Je n'ai pas encore compris comment fonctionne le monde. Mais je sais très bien ce que le ciel exige de moi. Le temps du gâchis est fini. Maintenant, je pose la main sur tout ce qui est beau. La neige, le vent, les étoiles. Pour certains, ce n'est pas assez. Écrire, c'est comme un fil qu'on tire. On se dit, le fil va casser. Et puis ça tient. La phrase qui m'a le plus impressionné, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Je donne une interview pour la télévision française. Le journaliste commence très fort. Vous, les gitans, vous êtes tous des voleurs. Je lui demande s'il est français. Il me répond oui. Je lui dis... Vous, les Français, vous avez volé la moitié de l'Afrique. Curieusement, on ne dit jamais que vous êtes des voleurs.
Quand je me suis mariée avec Alexandre, je croyais épouser le plus terrible des Romanès. J'ai épousé un poète.
On devrait avoir deux vies. Une pour apprendre, l'autre pour vivre.
Une vieille gitane à une jeune femme. Ma fille, quand tu choisiras un garçon... S'il n'est pas à la fois ton mari et ton frère, ne l'épouse pas.
À 20 ans, j'ai quitté ma famille. Je savais ni lire ni écrire. J'ai fait mon numéro d'équilibre dans la rue. En fait, un jour, mon père m'a appelé en me disant on a des fauves, mais on n'a pas de dompteurs. Moi, j'étais jamais entré dans une cage avec des fauves. La première fois que j'ai dit non à mon père, j'avais 25 ans. J'étais pas toujours d'accord avec lui, mais je n'aurais jamais osé dire non à mon père. Et quand mon père m'a dit « tu laisses ton acrobatie dans les rues et tu reviens au cirque », donc je suis revenu peut-être 4 ou 5 fois. Et j'ai fait des allers-retours comme ça jusqu'à l'âge de, je crois, 24-25 ans. Donc j'avais monté un numéro avec des lions, oui, et j'étais en train de passer au tigre aussi, parce que le tigre est plus facile à faire travailler, finalement moins dangereux que le lion, plus malléable. Et puis j'avais commencé avec un premier tigre, je me posais beaucoup de questions, et puis je me disais, bon, je vais finir, donc je vais rester dans le cirque. J'ai tout abandonné, je suis retourné dans la rue. Puis mon père est mort. J'avais plus besoin de dire à mon père non, voilà. Et donc je suis resté dans la rue.
Treci iarna și lungeat, pa, 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 didino, pa. Foaie verde la girar mar, of, of. Mă urcai din valendă-n măi, dar cu ochii pe sabă.
Ça n'engage à rien.
Et alors dans la rue, il m'est quand même arrivé une chose étrange. Enfin, il m'est arrivé deux choses. Oh, plus que deux sûrement. Mais j'étais sur un trottoir dans Paris, avec faire mon numéro d'acrobatie, tout ça, en collant, torse nu. Et j'ai vu passer devant moi quatre ou cinq jeunes avec des luttes pendues à leur cou et qui jouaient. C'est la musique de la Renaissance, parce que quand je revois la forme du luth, c'était des luths Renaissance. J'ai été complètement séduit par ça. Tout me plaisait. La musique, la beauté de l'instrument, la sonorité. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Le lendemain, je me suis inscrit dans un conservatoire de musique ancienne et je me suis mis à fond dans la musique. Et après, je suis passé à la musique baroque, puisque c'est quand même la musique, encore aujourd'hui, que je préfère. J'en faisais 12 heures par jour, même plus encore des fois. J'ai fait en 3 ans ce qu'on fait en 10 ans. Et j'ai commencé à donner des concerts dans les églises, quelques théâtres aussi, mais surtout les églises. Et j'ai eu une catastrophe, c'est-à-dire que j'ai eu une petite fille avec une gitane espagnole, une magnifique danseuse de flamenco, très belle. Mais qu'est-ce qu'elle m'a mis ? Et alors, quand ma fille est née, elle nous a abandonnés, nous a quittés, elle est partie. J'ai élevé ma fille jusqu'à l'âge de 2 ans et demi à peu près. Et puis à 2 ans et demi, elle revient, elle me dit, ben, laisse-moi ma fille quelques jours, puis je te la rends. Moi, je ne me suis pas méfié, puis pourquoi je empêcherais une mère de voir sa fille ? Et je n'ai plus jamais revu ma fille.
Je suis souvent dans la lune. Il m'arrive de quitter la pompe à essence ou le restaurant sans payer. Comment expliquer quand on est gitan que l'on n'a pas voulu voler ?
Longtemps, j'ai pensé qu'au cirque, il y a plus d'abrutis qu'ailleurs. Mais je me suis trompée. Ailleurs, c'est pareil.
Mon père, un homme, c'est beaucoup plus féroce qu'un tigre. Un tigre, tu lui donnes 15 kilos de viande et il est repu. Un homme, tu le couvres d'heures et il en veut encore. Quand j'étais jeune et que je faisais tomber des pièces de monnaie, je ne me baissais pas pour les ramasser. Quand je passais à la caisse des magasins, je ne prenais pas la monnaie. Je m'en faisais parfois le reproche. Jusqu'au jour où j'ai découvert que c'était un trait commun de tous les gitans. La police roumaine nous a pris nos papiers. On ne peut plus sortir du pays. Un ami nous recommande auprès d'un député royaliste. Le député, je tiens à vous dire par honnêteté que je n'aime pas beaucoup les tziganes. Je lui demande, pourquoi ? Il me dit, ce serait trop long à expliquer, mais pour résumer, je dirais que votre peuple n'a aucune qualité. Et pendant 30 minutes, il nous dit des horreurs sur le communisme. Quand nous nous quittons, je lui dis, vous pensez vraiment que les tziganes n'ont aucune qualité ? Le député, je le pense vraiment. Je lui dis, si les Roumains avaient été tziganes, combien de temps aurait tenu le régime communiste ? Il réfléchit un instant et dit, ce n'aurait pas tenu 8 jours. Il me prend dans ses bras et me dit, vous m'avez donné une bonne leçon, votre peuple a une grande qualité. Proverbe gitan. Si tu es au fond du trou, arrête de creuser. Un gars dans un restaurant est intrigué par ma présence. Il engage la conversation, il est sympathique et nous parlons très librement. Il me demande ce que je fais dans la vie. Je lui dis que je suis avec le petit cirque qui est à côté. Le cirque Tzigan ? Mais alors vous êtes gitan ? Oui. Dites-moi la vérité, vous, les gitans. Vous êtes vraiment terribles, comme on le dit ? Oui, mais vous, les gadgets, vous êtes beaucoup plus terribles que nous. Le gars, comment ça ? Vous avez inventé la colonisation, la prison, l'inquisition, la bombe atomique, l'ordinateur, les frontières arrêtées. Je suis d'accord, on est plus terrible que vous.
Je ne fais pas confiance aux hommes, surtout ceux qui ont un sexe masculin.
Et alors, j'avais dans la rue rencontré le poète Jean Genet, avec qui j'étais devenu très ami. Je dis bien ami, hein, rien d'autre. Et j'avais un projet de cirque avec lui. Puis, quand j'ai vu qu'on allait avoir l'argent pour le faire, j'ai dit à Jean, tant que c'était sur le papier, qu'on parlait, on avait des idées de spectacle, de numéros de sas, oui, ça m'amusait, ça m'intéressait. Mais là, je vois qu'on va vraiment y aller, et là, j'ai pas envie. Donc, j'ai fait marche arrière. Et c'est après que j'ai eu cette histoire où j'ai perdu ma fille. Alors là, paraît-il, je serais resté une année assis sur une chaise, sans dire un mot. Bon, j'allais très très mal. Et mes amis me disaient, mais monte-le ton cirque. Bon, c'est vrai, Jean Genet est mort, il est plus là, mais tu peux... Tout a eu le projet. Alors, je l'ai fait pour me sauver. Et j'ai pas monté le cirque que je devais monter avec Jean Genet, qui était quelque chose de très sophistiqué. Non, moi, j'ai voulu aller vers ma culture, vers quelque chose de plus spontané, plus immédiat, avec notre musique à nous, avec les danses de Tzigane et tout ça. Et je disais, si on arrive à manger avec ça, et mettre un peu d'essence dans le réservoir du camion pour aller dans le village d'à côté, je disais, formidable. Je n'espère rien de plus. Ouais, mais on a eu un énorme succès. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Vraiment pas. D'ailleurs, j'avais même écrit dans un article quelques gitans dans une piste, accompagnés de quelques musiciens avec une chanteuse. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais osé... Pensez à un tel succès. Tijana so te kera, palatute memera, palatute memera,
que už ta tehču mi dal, či žana u sote kerav, pala tu teme merav, pala tu teme merav, ki už ta tehču mi dal, aj čiki čiki me kaj teme dal, ala čiki čiki me kana žanav, aj čiki čiki me kaj teme dal, či žana u sote kerav, aj čiki čiki me kaj teme dal, ala čiki čiki me kana žanav, aj čiki čiki me kaj teme dal, či žana u sote
Cette chanson, je parle à Dieu dans tout ça. Je ne sais pas où j'y vais, je ne sais pas qui je suis, mais je porte l'amour très fort dans mon cœur qui n'a pas de frontières.
Chères auditrices et chers auditeurs, vous venez d'entendre chantant a cappella la grande Delia Romanes, qui était l'invitée d'Augustin Trapenard dans son émission Boomerang diffusée sur France Inter. Depuis 22 ans, Delia et Alexandre Romanes ont uni leur vie et font voyager leur petit chapiteau familial et Digane à travers le monde entier.
Oh, c'est beau l'amour!
Mais écoutons maintenant, si vous le voulez bien, comment Alexandre a rencontré Delia, la femme de sa vie.
Ça n'engage à rien.
Oui, alors il faut faire un tout petit historique. Le mariage gitan, le mariage zigane, si vous passez la nuit avec une femme, vous êtes marié. Voilà. C'est pas le bout de papier que vous allez signer à la mairie, monsieur le maire, le ceci, le cela, l'église, rien. C'est vous avez passé la nuit avec une femme, vous êtes marié.
Longtemps, j'ai fait la misère sur le terrain. Je suis une Lovari, la tribu des voleurs de chevaux. Et votre mari, Alexandre ? Ah, lui, il est de la tribu des Sinti. Eux, ce sont des voleurs, tout court. Je ne me maquille jamais, sauf les yeux et la bouche. Une de mes cousines fait les lignes de la main dans Paris. Je suis avec mon oncle, on frappe à la porte. Cousine, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça fait des années qu'on ne te voit plus. Qu'est-ce que tu deviens ? Je me suis mariée, mon oncle. Qu'est-ce qu'il fait, ton mari ? Il est psychiatre. Ah bon ? Et toi, tu fais toujours les lignes de la main ? Non, mon oncle, tout ça, c'est fini. J'ai fait des études. Maintenant, je suis psychiatre, moi aussi. C'est quoi, psychiatre ? Ma cousine lui explique. Mon oncle dit... Alors, si j'ai bien compris, tu as fait 10 ans d'école pour faire ce que tu faisais avant d'avoir été à l'école.
Dans les tribus gitanes et tziganes, le nomadisme est très fort. Il y a sûrement plusieurs explications, mais moi, j'en vois surtout une. Dans l'univers, tout bouge.
Justement, pour me sauver, j'ai monté ce petit cirque, cherché des jeunes, parce que j'étais tout seul, en fait. Et on m'avait signalé des jeunes un peu à droite à gauche, des musiciens. Et on m'avait parlé d'une chanteuse. On m'avait dit qu'elle a beaucoup de charme. Et c'est une gitane hongroise qui, paraît-il, a une belle voix. Et puis, enfin bon. Alors j'ai trouvé les jeunes, effectivement, qui savaient faire déjà un peu d'acrobatie, faire des choses. Je les ai pris avec moi. On a répété un spectacle. Et la chanteuse, je ne l'ai jamais trouvée. Je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas trouvée. Et un jour, j'étais sur le campement Tzigane de Nanterre. En fait, à Nanterre, il y avait 2 campements. Il y en avait un où j'avais mis ma petite caravane. Puis il y avait l'autre campement, ben, j'y allais rarement. Puis là, je ne sais pas pourquoi, avec ma voiture, j'ai traversé l'autre campement. Et il y a une femme qui passe devant moi, une jeune femme, avec un seau d'eau. J'ai baissé la vitre, je lui ai dit « Comment tu t'appelles ?» Alors, elle me dit « Je m'appelle Delia ». Et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle me dit avec son accent « Je fais la misère sur le terrain, en roulant des airs, comme ils font à l'Est. » Je la regarde comme ça et je lui dis « Est-ce que tu veux faire la misère avec moi ?» Elle me regarde un petit moment comme ça, puis elle dit « Oui, avec toi, je ferai bien la misère. » Je lui ai dit « Monte. » J'ai vu à la portière, on est monté, on est parti. Et on est revenu le lendemain matin. Je savais qu'en revenant le lendemain matin, on était mariés. Voilà. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait 3 enfants. Alors elle venait d'être abandonnée par son mari, sans papier, sans argent, avec 3 petits, ils étaient petits. Hein. Et elle avait 20 ans. C'était une gamine, en fait. D'ailleurs, les gens qui la connaissaient disaient « c'est une enfant parmi ses enfants ». Et puis un jour, je ne sais pas où elle avait trouvé ça, dans une grande malle, elle sort une croix énorme, avec un Christ cloué dessus. Et puis, elle était torse nu, elle était seins nus en fait. Elle était devant moi, elle se met à genoux par terre, elle colle la croix sur sa poitrine, en regardant le ciel. Et là, j'ai dit, il faut que je lui fasse un enfant. C'est pas, on peut pas continuer comme ça. Ensemble, on a fait deux enfants. Quand j'ai commencé, j'avais donc plusieurs garçons et filles tziganes. Bah, elle a tout de suite fait venir quelques parents à elle. Mais c'était un peu maigre. Et j'avais un jeune Antillais, moitié africain, moitié Antillais. Et j'avais quatre garçons qui venaient d'Afrique du Nord, des Français, mais avec des origines algériennes et marocaines. Les garçons, je leur ai monté des numéros. Ils ont monté des numéros exceptionnels. Tout le monde les voulait. Donc les uns derrière les autres, en fait, ils ne sont pas vraiment partis. Ils venaient me voir en me disant Alexandre. D'abord, ils ne disaient pas Alexandre, ils m'appelaient papa. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le premier, on lui proposait mais une fortune. D'ailleurs, il est presque devenu une vedette aux États-Unis, pour aller dans le plus grand cirque des États-Unis. Ben, je lui dis, écoute, ici, tu vois bien, on fait le fond de nos poches pour acheter une baguette de pain. Vas-y, prends-le, le contrat, ça ne se refuse pas. Je veux dire, on part de rien, il faut que tu gagnes un peu d'argent quand même. Mais ce qu'il y a de joli quand même, régulièrement, ils m'appellent en disant « Est-ce que tu veux qu'on revienne ?» J'ai dit « Non, maintenant, on n'a plus besoin. » Mais ils ont été très utiles parce qu'ils ont fait la jointure avec ma famille à moi. Il n'y a pas que la famille, il y a quelques personnes, mais alors il y a mes filles, de vraiment gitans, il y a mes filles, les musiciens, mon épouse Delia. Le duo, lui est gitan, pas elle. On a un très très joli duo aérien. Voilà, les enfants d'Elia étaient petits. Elle avait un cousin à elle qui avait 18-20 ans, qui démarrait lui aussi. Bon, ils ont permis de faire la jointure. Et donc, maintenant, ils ne sont plus là. On avait monté, d'ailleurs, on l'a remonté, mais il n'est pas tout à fait au point. Ma fille Alexandra, elle fait un joli numéro de trapèze. Et puis, au final. Alors, en fait, elle monte à la corde et elle rejoint le trapèze. Et le chat arrive et lui aussi, il grimpe à la corde. Rien que ça, c'est déjà joli. Et après, et puis il se met sur elle. Et alors, toutes les figures qu'elle fait, lui, il suit le mouvement. Il change de position et puis à un moment, elle tend le bras, il va sur le bras. Après, elle tend la jambe, il va sur la jambe. C'est très, très joli. Et au final, moi, je suis en bas avec un coussin. Et puis, elle s'assoit sur le trapèze, il y a le chat sur ses genoux, et puis il saute du haut du chapiteau sur le coussin. Le public ne parle que de ce numéro. Mais c'est eux qui ont raison. C'est beaucoup plus joli que de voir 8 ou 10 lions ou tigres dans une cage avec une espèce de fou qui a un fouet. C'est un malade, ce gars-là. Moi, j'ai été un malade, absolument. Mais je suis normal maintenant. D'ailleurs, c'est devenu un métier de fou. Parce que mon père, il était dans son cirque comme le capitaine d'un bateau sur ces bateaux à voile. Et puis, à diriger la manœuvre et à commander les hommes. Aujourd'hui, un directeur de cirque, il est dans un bureau du matin jusqu'au soir. Les directeurs de cirque aujourd'hui, ils ne savent même plus attacher une corde. C'est des bureaucrates. Voilà ce qu'on a fait. Oui, mais il n'y a pas que les directeurs de cirque qu'on oblige à être des bureaucrates. Maintenant, on veut mettre tout le monde dans des bureaux. C'est de la folie. On marche sur la tête.
À côté du cirque, il y a le cimetière de Clichy, le seul endroit tranquille du quartier. Je vais souvent m'y promener avec mes filles. Je lis sur une tombe « Monsieur X, chef de bureau ». Quelle misère! Avec ma fille, Alexandra, 5 ans, j'entre dans un restaurant self-service. On passe devant une dizaine d'hommes et de femmes. Soudain, elle lâche ma main et court en direction d'un clochard qui est au fond de la salle. Elle se jette sur lui et l'embrasse. Quand c'est beau, il n'y a rien à dire. Mon père, ce colosse, le revoir à travers ma fille de 3 ans, comment ne pas être touché?
Quand tu t'es pointé sur la zone qui pousse au pied de mon HLM, tu as garé ton vieux Savième près d'un pylône. T'avais rangé vos caravanes comme les chariots dans un western. Soudain dans ma banlieue minable, c'était moins terne. Toi, ta famille, tes chiens, tes mômes, tes cousins, tes frangins, tes poules, c'est comme une grande bouffée d'ozone quand ça déboule. Salut le gitan, salut le manouche, tu te souviens de moi? Tu m'avais filé ton canif. Toi, tu te prends toujours pour cartouche, moi j'ai toujours pas mon certif.
Qu'est-ce qu'elle est gentille, ma fille. On dirait une petite vieille.
Quand j'étais adolescent, j'aurais préféré mourir que de baisser la tête. J'avais fait une croix sur le cirque. 20 ans après, j'en monte un. Je rencontre Pipo, un ami d'enfance. Il m'embrasse et me regarde curieusement. Je lui demande ce qu'il y a. Je suis vraiment étonné de te voir faire du cirque. Pourquoi ? Je pensais que tu étais intelligent. Ça fait plusieurs jours qu'on cherche une place pour installer le chapiteau. Les mairies nous disent qu'il n'y a plus d'espace public. Et c'est vrai, car ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'il n'y en ait plus. Les pays sont décevants. Les villes se ressemblent. Être dans la foule ou manger du sable, c'est pareil. Peut-être parce que je suis gitan, je vais de ville en ville, pour certains, comme un pouilleux. Un grand nombre me méprise. Des fois, je leur souris. Je reconnais leur grandeur. Dieu, je t'en prie, arrête ça.
Mario fait toujours le rémouleur, Angelo fabrique ses paniers. Moi, je sais bien que dans ses petits métiers, pour faire son beurre, il faut avoir des à côté. Toi, t'en as toujours eu un max, du genre qui font que quand t'es gaulé, eh ben tu casques.
Mon arrière-grand-père avait 3 femmes et 1 ours. L'embêtant, disait-il, c'est l'ours.
Une vieille gitane. Je n'ai jamais été attirée par les alcooliques, mais je les préfère, et de loin, aux responsables politiques.
Je suis dans un train en Espagne. Je vois monter une dizaine de jeunes gitans. Ils s'adressent à tout le compartiment. Vous allez nous donner un peu d'argent. Pour vous aider à mettre la main à la poche, on vous propose 2 choses. Ou on sort les couteaux, ou on sort les guitares. Tout le monde a crié « Les guitares !»
Ma fille, Alexandra, comme dans toutes les familles gitanes, on ne lui a jamais donné de jouets. Une vieille dame lui apporte une poupée magnifique. Elle la regarde, la prend par une jambe et la jette dans la boue. Je regarde ma fille avec admiration.
Dans la banlieue parisienne, j'aperçois un campement de ziganes sous une bretelle d'autoroute. Les caravanes sont délabrées, c'est la misère. Il m'invite à boire un café. On s'assoit par terre, sur des couvertures. J'entends au loin le son d'un violon. Je vais au bout du campement. Il y a un jeune homme assis devant une petite caravane avec plein d'instruments de musique à ses pieds. Il joue merveilleusement bien du violon. Je lui demande s'il joue aussi bien des autres instruments. Il saisit la flûte et c'est aussi beau que le violon. Il s'arrête de jouer et avec un large sourire, en s'excusant, me dit « Je joue d'une douzaine d'instruments, mais je ne joue très bien que de 6. Papa, ce serait joli s'il n'y avait que des femmes. »
Ça n'engage à rien.
Ouais, on n'est pas raciste, hein, on n'est pas ni antisémite. Ben oui, j'ai une fille, c'est marrant, elle a une mère juive, un père gitan. Souvent, je lui dis, toi, il te manque plus que d'être musulman et noir. Puis comme ça, t'as tout. Ça la fait beaucoup rire, toujours. Bon, ben voilà, il y a un peu de mélange, quoi. C'est un petit jeune qui m'a posé la question hier. Il me dit, mais pourquoi il n'y a pas de clown? Ben, j'ai dit, mon garçon, plutôt que d'en avoir des mauvais, j'aime mieux ne pas en avoir. Après, les animaux, bon... Moi, je trouve que c'est un peu triste de mettre des animaux dans des cages. Moi, j'ai eu des lions et des tigres. J'ai bien vu comment c'était... Donc, nos numéros sont très classiques, mais encore que je sais pas si... Il y a quand même des choses qu'on ne voit pas dans les cirques, mais bon. Mais déjà, la danse et la musique tzigane. Jean Genet me disait, que tu devrais écrire. Et la dernière année, juste avant sa mort, il me disait non. C'est pas que tu devrais écrire, c'est que tu verras, tu vas écrire. Et je m'y suis mis 20 ans après sa mort, et par hasard. En fait, j'avais noté des choses dans un cahier d'écolier d'une de mes filles. J'avais noté des choses, mais toutes bêtes. Comme la première chose que j'ai notée, c'est ça. Delia me dit, cet imbécile d'Alberto a quitté ma cousine. Bon, et alors elle ajoute, et ma cousine, pourtant ma cousine a toutes les qualités. Et moi, par curiosité, je lui dis, quelle qualité? Elle me dit, elle est propre, elle est courageuse, elle est fidèle. Et quelle voleuse! Oh, je dis, c'est rigolo de voir les choses comme ça. Alors j'ai noté, j'ai attrapé le cahier de ma fille, j'ai noté. Puis il y en a eu plein comme ça. Et je me suis mis à noter les choses que j'avais vues, moi. Ça m'a plu, ça m'a... Puis ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu un moment, en fait, j'avais plus d'histoire. Et en vérité, j'en avais énormément. Mais j'ai eu un trou et j'ai eu un manque. Et là, j'ai pas voulu arrêter. J'ai commencé à noter, non pas les histoires dont je... Mais des choses que je pensais personnellement. Des choses très simples. Puis hop, les histoires sont revenues. Puis j'ai rempli le cahier. Puis je l'ai laissé. Et je suis très ami avec le poète Christian Bobin. Et Christian venait me voir assez souvent. Et puis un jour, il partait avec sa voiture, il sortait de la place. Et une de mes filles lui court après, elle lui dit « Christian, il faut que tu saches que papa fait des poèmes. » C'était pas des poèmes, c'est des petites choses que j'avais notées. Alors Christian, curieux comme une fille de 14 ans, il me dit « Je dis, je sais pas où est le cahier. » On a mis 2 heures pour retrouver le cahier. Il était sous un matelas, dans une caravane où personne n'allait même. Et alors il se met dans un coin, il lit, il me dit « Demain, j'ai rendez-vous avec un petit éditeur. » Je suis certain qu'il le prend, le cahier. Est-ce que tu veux que je lui donne? Bah, je dis, qu'est-ce que je risque? Moi, je voyais même pas vraiment l'intérêt de tout ça, mais bon. Et alors, c'est devenu Le Peuple de Promeneurs, qui est mon premier livre, et qui sera repris finalement par Gallimard. Parce que maintenant, il est chez Gallimard. Voilà comment je suis venu à l'écriture, comment je suis venu à la poésie d'une autre manière. J'avais vu le dernier accouchement de ma femme, et j'avais vraiment été choqué. Et maintenant, je dis à tous les gars, surtout ne regardez pas l'accouchement. Mais alors, pas du tout. Et puis, 3-4 mois plus tard, boum, j'ai commencé à faire des poèmes. Et là, je les ai envoyés à... C'est Christian encore et Lydie Datas, qui m'ont dit, envoie-les à Gallimard. Gallimard va les prendre. Voilà comment je suis venu à la poésie. Mais vraiment, finalement, c'est ce que disait Jean Genet, tu vas écrire.
L'Occident, avec sa manie de tout pasteuriser, a détruit les tziganes de Roumanie. Il a réduit à l'esclavage un peuple de promeneurs. Il les a obligés à abandonner le voyage et à vivre dans des maisons. L'Occident me fait penser à cette doctoresse qui avait des jambes énormes remplies d'eau et qui donnait des conseils de médecine à tout le monde.
Une vieille gitane. Elle ne parle jamais des camps de concentration où elle a été. Je lui demande pourquoi. Elle me répond, parce que j'ai honte.
Pour une misérable histoire de papier, on n'a pas pu ramener tous les enfants. Si on m'avait marqué au fer rouge comme une bête, je n'aurais pas eu plus mal. Sur un campement tzigane, j'ai vu un homme s'arracher les cheveux par poignée, pour des papiers qu'il n'avait pas.
Il avait 6 ans. Il était terrible. On ne pouvait pas le quitter des yeux, sinon il mettait le feu à la caravane. Il prenait un marteau et il cassait tout. Il ouvrait tous les robinets à fond. Toutes les clés disparaissaient. Si on voulait l'embrasser, on était prévenu. Attention au coup de tête. Je demande. Et maintenant qu'il est grand? Maintenant? Il est doux comme un agneau. C'est un miracle.
Moi qui étais si misogyne, j'ai fait 5 filles.
Que Dieu protège tout le monde. Même mes ennemis.
Il est 4 heures de la nuit. Je n'arrive plus à dormir. Je m'assois sur le plancher gelé de la caravane. Dehors, il fait froid. Il y a du vent. L'hiver n'en finit plus. Le campement est encore calme. Pour quelques heures. Quelques heures seulement.
Ça n'engage à rien.
Ladies and gentlemen, avant de clore cette émission et une fois n'est pas coutume de laisser le mot de la fin au grand Alexandre Romanès, je tiens solennellement à vous annoncer que vous pouvez retrouver leur nouveau spectacle « Si tu ne m'aimes plus, je me jetterai par la fenêtre de la caravane » à Paris, Porte Maillot, à partir du 1er avril. Nous, en tout cas, on y sera.
Ouais, ma gueule!
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier du fond du cœur d'avoir partagé avec nous ce voyage en première classe. Une balade conçue et présentée par Steve. Et à la technique, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le roi du doublage, celui sans qui rien ne serait possible. J'ai nommé l'incroyable Hulk, Nicolas Le Borgne, dit le Mosquitos.
Salut les filles!
Un très très grand merci à l'équipe du CDN avec mention spéciale pour Nathalie Labaye. Un merci profond et sincère à Delia et Alexandre Romanès et bien sûr à toute l'équipe du Cirque pour leur accueil. Enfin, un énorme big up à Marie de Coninck et à Philippe Nem pour avoir eu la gentillesse d'interpréter et d'enregistrer les textes d'Alexandre Romanès. Textes issus des ouvrages intitulés « Un peuple de promeneurs » et « Paroles perdues » que vous pouvez retrouver aux éditions Gallimard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter à nouveau cette émission en balado-diffusion sur radiohdr.net ou sur la page Facebook de l'émission « Ça n'engage à rien ». N'hésitez pas à réagir et à partager sur ce support. À très vite pour de nouvelles aventures et bon vent à toutes et à tous. Eh bien, puisque ça n'engage à rien, écoutez, Alexandre.
On voit bien que les communautés se resserrent sur elles-mêmes et ça, c'est pas bien. Nous, on est vraiment restés dans le nomadisme. D'ailleurs, on est les derniers. Hein, le nomadisme, toutes les cultures minoritaires sont condamnées. Nous, par exemple, les gitans, nous, on peut voyager, mais on peut pas s'arrêter. Parce que les autorités ne le permettent pas. Après, on me dit, mais pourquoi vous avez un petit cirque? Vous avez énormément de monde, vous refusez du monde et tout. Et je dis toujours, d'abord, j'ai pas envie de trimballer un hangar pour avion, que les chapiteaux, maintenant, c'est comme ça. Et puis avoir plein de camions, plein d'animaux et tout ça, non. Et puis je dis, finalement, c'est bien d'avoir un petit cirque. Parce que... comme ça, on ne sera jamais riche. Et ça, c'est quand même bien. Et je vous dirai, vous finirez sur le proverbe tzigane. Ne te moque jamais des riches. Ça pourrait arriver.
Por el camino del desierto, el viento me despeina. Suelo aroma de colita, no me da nada de nadie. Ella de lo lejos. Una luz en tela, la idea de Mercán, te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana de sonar, y me dijo ya mi mimo, el topodo del cielo, ella se me una vela y nuestra de camino, soy moza el corriador, y yo te dije diciendo, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place.
Brazil than California. Such a lava plane, such a lava plane, such a lava plane.
En el espejo, en el techo, champana en el hielo. Y ella dijo, somos todos prisioneros, por propia voluntad. Y a los cuatro principales hacen su siesta, atacan a la bestia, pero no la logra matar.
Mi último recuerdo, Corea de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado. El Atlántico portero.